recherche médicale. Vous savez qui est l'auteur de cette remarquable exposition science-fiction Voyage au cœur du vivant qu'il y a derrière vos sièges, qui est absolument magnifique, avec beaucoup de poésie et des choses qui montrent en tous les cas qu'à l'échelle nanométrique, il y a un autre univers qui est au moins aussi complexe, sinon plus complexe, que celui qui nous entoure et que nous avons déjà pas mal de mal à imaginer. Je vous en prie, asseyez-vous. C'est pas parce que je bavasse pour meubler qu'il faut ne pas vous asseoir. Alors, comme vous êtes déjà assis et que vous avez déjà été équipé pour la traduction simultanée, tout va bien. Sinon, prenez la précaution de vous munir d'un traducteur, puisque nous avons un hôte qui est un auteur américain. Et donc, vous allez avoir besoin, si vous ne maîtrisez pas absolument la langue de Shakespeare avec l'accent d'outre-Atlantique, vous allez avoir besoin de ça. Notre sujet, c'est aux frontières du vivant et du visible. Alors, vous savez que certains auteurs de science-fiction, et on en a deux ici, et quelques chercheurs, et on a deux ici par souci de symétrie, nous mettent en perspective des êtres qui sont à la fois humains, artificiels, voire mécaniques, et on craint que nous devenions, dans ce mouvement-là, tôt ou tard, des quasi-robots. Alors, la recherche scientifique investit aujourd'hui la piste des biomatériaux, et peut-être que ça fait reculer cette perspective que j'évoquais précédemment. Et la question qu'on va se poser ce soir, c'est de quoi notre corps soigné sera-t-il composé demain ? Nous allons voir que c'est un tout petit peu compliqué à faire, que c'est une longue marche. Mais dans notre exemple qui est nantais, on peut, je dirais, difficilement mieux préparer le retour du naturel, et vous allez voir, du retour du naturel au galop. C'est une allusion que personne n'a compris, alors qu'il y avait quelqu'un qui devait le comprendre, mais bon, c'est pas grave, on va le voir tout à l'heure. Alors, je vais vous présenter nos interlocuteurs. À droite du dispositif, vous avez Gérard Klein. Alors, Gérard Klein, je ne sais pas vraiment par quelle facette vous saisir, parce que vous êtes un homme à multiples facettes, protéiforme. Je vais commencer par l'éditeur que vous êtes, parce que, alors, c'est réducteur, mais c'est vous dirigez quand même la collection Ailleurs et Demain, des éditions Robert Laffont, qui est considérée comme la plus prestigieuse de France. C'est pas moi qui le dis, ce sont des gens très sérieux. Vous dirigez aussi une autre collection, c'est celle de science-fiction du livre de poche, et on dit que sans vos choix d'éditeur, la SF française ne serait pas ce qu'elle est. Alors, c'est un truisme, mais c'est un truisme de compliment. Vous êtes écrivain aussi, on dit de vous que l'on vous doit ce que la science-fiction française a produit de plus poétique. Alors ça, la poésie, c'est quelque chose de perception intime, donc je laisse au lecteur le soin de le dire, mais on le sent. Vous êtes aussi un philosophe qui est féru de science, vous êtes un psychologue social, un économiste, un prospectiviste, on dirait finalement un honnête homme dans un autre temps. Et pourtant, vous avez cherché à brouiller toutes les cartes, toutes ces cartes-là. Vous avez adopté des pseudos, Gilles d'Argire, François Pagerie, c'était en collaboration, Luc Vigan, ça a été repris. On vous prête d'autres pseudos, mais décidément, on ne peut pas te corriger. Alors bon, c'est pas grave. Au fond, on peut vous dire que vous avez inventé la propulsion solaire en SF. C'est vrai, ça ? Propulsion solaire. La propulsion solaire. Ben, la propulsion avec la force émanant de l'énergie solaire.
Absolument.
Bon, il avait oublié. Et je suppose que vous avez suivi les évolutions de Solar Impulse.
Excusez-moi, mais avec l'âge et surtout des écouteurs sur les oreilles, mon audition ne s'améliore pas. Je n'avais pas compris le mot propulsion. Alors, bon. Effectivement, je revendique d'avoir été le premier à l'avoir introduite dans un roman de science-fiction.
Parfait. Donc, on voit que vous avez de l'imagination. Et vous êtes aussi l'auteur d'une nouvelle, alors c'est une nouvelle parmi d'autres, hein, intitulée « Les virus ne parlent pas ». Et finalement, moi je dirais que vous avez presque eu l'intuition du fait que les virus, c'est une théorie, hein, ont participé à l'élaboration du vivant, ça c'est une réalité, mais du vivant humain, et qu'ils ont même construit la machine humaine pour pouvoir se reproduire, ces salopards. Bon, voilà, c'est une thèse, et vous avez eu cette intuition-là, c'est formidable. En tous les cas, dans cette nouvelle, vous posez la problématique du rapport entre l'homme et la machine, en disant, au fond, la machine, c'est facile, avec même un logiciel, on peut reprogrammer, le corps humain, non. L'ADN, pas. L'ADN, pas. Ils vont vous montrer, ces deux êtres-là, qu'on ne va pas reprogrammer l'ADN, mais on va reprogrammer des séquences. C'est un peu comme ça que je vois ce que vous faites, messieurs. Alors, je vais vous poser une question à réponse brève. Qu'est-ce qui vous a épaté comme véritable anticipation scientifique dans toute la SF que vous connaissez? C'est-à-dire qu'il y a un moment, un auteur a inventé un truc, la propulsion solaire, tiens, par exemple, ça devrait vous avoir épaté de l'avoir inventé, puis ça a été fait. Ah, qu'est-ce qui vous a épaté le plus, vous?
Ben, je crois que dans le domaine de la biologie, en dehors de mon apport considérable que vous soulignez tout à l'heure, et je me croyais à la recombinaison de l'ADN, chez l'écrivain anglais Ian Banks, on a un vertige devant les manipulations du vivant qu'il propose. C'est-à-dire, il imagine par exemple des gens qui se font, qui changent de sexe, qui changent d'apparence, qui changent de corps à volonté. Alors, il ne cherche pas à justifier sur le plan scientifique toujours ce qu'il décrit, mais je pense que ce qui est le plus intéressant dans la science-fiction, c'est pas toujours la justification scientifique, c'est l'expression d'un désir. Et bien, c'est comme ça que les choses se font.
Alors, merci beaucoup. En tous les cas, j'espère que ça ne va pas arriver, ce que vous avez décrit. On va voir. Brandon Sanderson, vous êtes, vous, un auteur américain de fantasy, et vous nous venez du Nebraska, en plein cœur des États-Unis. La capitale, c'est Lincoln, mais ce n'est pas la première ville de l'État. La ville la plus peuplée, elle est chère à nos âmes françaises, c'est Omaha. Elle est jumelée par le sang avec la plage de Colville, en Normandie. C'est vous qui devez terminer la série de La Roue du Temps, que la mort de Robert Jordan a laissée inachevée. Gros travail, n'est-ce pas? Bon courage. À titre personnel, pour l'instant, vous êtes l'auteur d'Elantris, de Fils de Brume et de Mistborn, où vous développez des personnages qui ont la capacité de brûler des métaux particuliers qu'ils ont au préalable ingéré. La combustion de ces métaux leur donne des capacités spéciales. C'est de repousser ou d'attirer d'autres métaux. On va voir qu'on est un peu dans la problématique de la recherche de ces hommes-là à côté, encore qu'il ne s'agisse pas de métaux. De calmer ou d'agiter les émotions des autres. Vous n'aviez pas prévu les matériaux composites ou les nanotubes de carbone, mais vous allez progressivement les intégrer. Et là, on va avoir des matériaux reconstructifs. Alors, une question à réponse brève pour vous. C'est un chirurgien dentiste, il y en a un là, qui en vous mettant du métal dans la bouche, vous a donné l'idée des Mistborn qui mangent du métal?
Actually, the idea came from my work in biology and chemistry. I began as a biochemist in college. I began as a biochemistry in college before I switched gears to become a writer, and I've always been interested in the blending of science and mythology and science and magic, so to speak, or superstition. And the idea for the burning metals really was a melding between my studies in alchemy, which fascinates me. Alchemy is fascinating because alchemy is one of the first sciences, which is really, it's a pseudoscience. The first pseudosciences where real scientific rigor was applied to it, where people were trying to figure out if it really worked. You know, Isaac Newton believed in alchemy and was trying to test it with the scientific method in the kind of the early days. And that mixing with my studies in metabolism, and I'm trying to write books where I'm exploring different modes of science, different modes of magic, and what would happen if you applied scientific reasoning in a world where magic was real. And so it came from alchemy mixed with metabolism, the concept of, as human
D'accord.
beings, we ingest things and we gain energy from them. Yeah.
Merci beaucoup. Donc, c'est pas un chirurgien dentiste, c'est un prof. Ça tombe bien, il est prof aussi. Alors, Pierre Weiss, c'est vous dont il s'agit. Vous êtes donc chirurgien dentiste. Vous êtes surtout directeur du laboratoire d'ingénierie ostéo-articulaire et dentaire. Wow. LIOAD, unité INSERM, université numéro 791. Ça ressemble à un début de titre de roman de science-fiction, ça. Vous êtes maître de conférence de l'université, praticien hospitalier, chercheur, et votre spécialité, ce sont les hydrogels. Dire ce que c'est avec vous tout à l'heure, pour l'ingénierie tissulaire. Donc c'est un matériau qui va permettre à un ingénieur des tissus vivants de bosser. Votre labo, il a mis au point des substituts osseux qui permettent de remplacer donc l'os. Le matériau est biocompatible, c'est déjà une chose. Il sert de base d'accroche à des cellules vivantes qui produisent elles-mêmes le tissu osseux, le colonisent, ce biomatériau, et le bousille. Hein, il y a les blasts et les clasts qui opèrent, et puis bon, on a de l'os à la fin, donc c'est formidable. Mais ça, c'est pas nouveau. C'est mieux que l'enrochement permettant de refaire un massif corallien, mais ça fonctionne de la même manière. Alors, hélas, avec ça, on ne peut réparer que de petites lacunes. Et donc, vous avez besoin de passer à la réparation de plus grosses lacunes. Et vous êtes en voie de passer de ce matériau biocompatible à un biocomposite, ou biomatériau, quoi, en quelque sorte. Mais en même temps, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on va utiliser des cellules du corps vivant, mais on ne va pas les laisser faire le boulot toutes seules. On va les forcer à faire le boulot. C'est un peu ça. Vous allez nous expliquer d'obtenir de l'os, du cartilage, de l'ivoire dentaire. C'est ambitieux et on attend la suite parce qu'on se dit, mais on peut tout obtenir avec ce principe-là. Donc la perspective est vertigineuse. Question à réponse brève pour vous, puisqu'on a adopté un principe de symétrie, c'est le symétrique de la question précédente. En lisant un auteur de science-fiction ou en méditant, je ne sais pas, sur les implants mammaires qui sont en hydrogel, que vous avez abordé les hydrogels vous-même.
On a pensé aux implants mammaires, mais on n'est pas parti de là.
D'accord.
Non, on est parti simplement de matériaux justement pour faire de la substitution osseuse. Et c'est par des modifications chimiques qu'on est arrivé à des hydrogels, c'est-à-dire des structures tridimensionnelles, pour pouvoir mimer en fait la matrice extracellulaire.
Alors, c'est une matrice. On va expliquer tout à l'heure en quoi c'est une matrice. Bon, donc c'est pas un rêve, c'est pas un auteur, c'est très sérieux. Jérôme Guicheux, vous êtes chercheur associé. Alors, ça va surprendre, ici, à l'École nationale vétérinaire de Nantes. Mais ce n'est pas surprenant, parce que vous êtes du département de biologie et pathologie. C'est un contrat d'interface avec l'INSERM. Votre thème de recherche est physiopathologie des tissus squelettiques, os, cartilage, dents. Donc, on est bien dans le dur de ce qu'on vient de traiter. Thérapie cellulaire et ingénierie tissulaire des cartilages. Et vous êtes responsable dans l'unité qui a ce nom de U791 comme un sous-marin, responsable scientifique de la plateforme biologie cellulaire et moléculaire. Vous travaillez directement sur le principe du transport des cellules du patient. Vous allez prendre les cellules du patient dans ce qui va devenir le biomatériau et après son injection directe sur le site de la lésion, à réparer. Alors on va voir pourquoi vous êtes utile d'avoir... Il est utile d'avoir une liaison avec l'école vétérinaire parce qu'on va amener à un moment des études, des expériences sur la souris, sur le lapin et sur le cheval. Alors la question à réponse brève, c'est pourquoi le cheval ? Pour avoir un remède de cheval ? C'est juste pour faire une introduction plaisante, ça.
Parce que le cheval, comme le chien, est un des animaux chez lesquels il y a une demande clinique. Et pour nous, ce n'est pas un simple modèle. Notre objectif
D'accord.
est de
Donc
soigner des patients.
Ça va servir après, y compris au cheval.
Absolument.
C'est bien, donc c'est à double détente.
Bien sûr.
Très bien, merci beaucoup. Alors, je vais vous interroger tous les deux, vous allez vous partager un peu le travail, parce que, au fond, c'est ce que vous faites tous les jours. Il m'est venu l'idée que, historiquement, la réparation de l'eau, ça venait de l'histoire des gueules cassées de la Grande Guerre, dont on parle beaucoup ces temps-ci, c'est ça ? Vous avez l'air d'acquiescer. On comblait ça avec quoi ? Du métal, au départ, hein.
Alors effectivement, les blessés de guerre ont fait partie des patients qu'il a fallu réparer. Hein, et il y a une association des gueules cassées qui existe toujours, qui est là pour trouver des moyens de réparer les gens qui ont eu des traumas dus à des armes, par exemple. Hein. On était toute une période sur la réparation. Maintenant, notre objectif à nous, c'est de le régénérer, c'est-à-dire de pouvoir retrouver le vrai tissu qui existait avant.
C'est pas de faire un boulot de restauration comme on le fait dans le bâtiment, c'est ben on reprend et puis ça va se réparer globalement par une régénération.
Voilà.
Alors, depuis quand on connaît tous ces mécanismes à l'échelle de la cellule, les mécanismes de réparation de l'os, on les connaît depuis très longtemps ou c'est quand même encore quelque chose de relativement récent ? Ces ostéoblastes qui sont les cellules, ça c'est votre spécialité, Jérôme Guicheux ?
Depuis un demi-siècle.
Un demi-siècle. Donc c'est relativement récent malgré tout. Hein. Et donc il faut du temps pour passer de ces constats à l'idée que vous êtes en train de développer.
Il a fallu un demi-siècle.
Voilà. Alors, la jonction, elle s'opère toujours sur la face, c'est ça, au départ, où on a cherché à réparer de l'os un peu partout dans le corps.
Ah non, on cherche à réparer de l'os partout dans l'organisme. Hein. Des gens qui ont des fractures au niveau du fémur ou au niveau d'autres types d'os qui ne se réparent pas et qui posent des problèmes absolument insolubles actuellement. Mais effectivement, au niveau de la face, ça se voit plus. Il y a des patients qui perdent toutes leurs dents, par exemple, on ne sait pas mettre d'implant pour pouvoir régénérer, pour pouvoir de nouveau pouvoir mastiquer. Il faut pouvoir régénérer de l'os pour pouvoir y mettre des implants. Les fractures du col de fémur chez les femmes ménopausées posent des problèmes également importants. Où pour l'instant, on fait de la réparation, on ne fait pas de la régénération.
Et puis alors, vient se greffer là-dessus, si je puis dire. Enfin, s'ajoute à ça la question du cartilage. Or ça, c'est un autre mécanisme ou c'est le même mécanisme ? Le biologiste.
C'est différent et beaucoup plus difficile à solutionner. Et ce qui explique qu'on ait commencé par l'os et que maintenant on s'intéresse au cartilage et au disque intervertébral.
Alors, quelle est la différence de mécanisme ? Comment ça fonctionne ? D'abord, le cartilage, il ne se régénère pas spontanément. Ouais.
La différence majeure entre l'os et le cartilage, c'est que l'os repousse tout seul et le cartilage pas. Donc, toute perte de cartilage est définitive. Donc il n'y a pas de possibilité de retour en arrière.
Ce qui fait qu'on est obligé de faire des prothèses complètes, de scier la tête du fémur pour la remplacer par du métal. De façon... Et là, c'est terminé. Vous êtes en train de sonner le glas de ces opérations-là à terme.
On espère pouvoir sonner le glas des prothèses métalliques, mais on en est très, 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 très loin.
Très loin, ça veut dire c'est en termes d'années, hein, c'est
en
ça
en termes de dizaines d'années.
De temps, des dizaines d'années.
Oui.
Un demi-siècle.
Non.
Bon.
Une
très
dizaine
bien, mais... Bon, en tous les cas, il faut le faire. Et pour la dent, alors, vous, c'est votre spécialité. On n'avait pas encore pensé à ça. Mais c'est en travaillant sur l'os et le cartilage que vous vous êtes dit, bah tiens, les dents, non. Comment c'est venu, ça ?
Alors, les dents, c'est un peu plus difficile, en fait. Parce que les dents, il y a plusieurs tissus qui sont entremêlés. Et une dent est composée d'au moins 3, voire 4 tissus, avec son situ de, même 5 tissus avec son tissu de soutien. Et donc, pour l'instant, notre objectif, c'est de réparer et de régénérer le tissu de soutien des dents. Mais pas de régénérer la dent. Ça, c'est... encore plus complexe.
Alors le tissu de soutien, c'est dans la gencive, c'est entre l'os et la dent, c'est ça ?
C'est le tissu osseux dans lequel on peut mettre des implants actuellement. Alors, ou régénérer le parodonte qui maintient les dents en place.
Donc pour l'instant, on met une cheville. Hein. L'implant, c'est une cheville sur laquelle on va visser une fausse dent. Là, vous êtes en train de travailler sur une régénération, là aussi, à terme.
Alors le premier souci actuellement, c'est de pouvoir mettre la cheville dans du tissu. Et quand on a perdu ses dents, on perd le tissu de soutien des dents. Et
on ne peut pas mettre la cheville.
Et on ne peut pas mettre la cheville. Donc déjà, le challenge pour les 5 ans qui viennent ou les 10 ans qui viennent, c'est de régénérer du tissu osseux là où il n'y en a plus, uniquement pour pouvoir mettre la cheville. Et ça, on ne sait pas le faire actuellement.
Alors donc, vous allez utiliser quelle technique ? Celle qu'on a vue tout de suite ou... Alors, parlons des hydrogels peut-être maintenant. Comment ça fonctionne, un hydrogel ?
Alors les hydrogels...
C'est quoi ? C'est une poche. On imagine une poche plastique.
Ah non, les poches plastiques, c'est pour les prothèses mammaires.
Et là,
ce sont des liquides visqueux dans une poche.
Dans une poche dure.
Dans une poche qui est ferme, viscoélastique, enfin qui est ferme et qui maintient le liquide.
D'accord.
Nous, notre objectif, c'est de faire... Alors, les hydrogels, ce sont en fait des réseaux de grandes chaînes de molécules qui sont liées les unes avec les autres, mais qui sont composées à 98% d'eau. C'est de l'eau figée.
Donc, d'une certaine manière, c'est composé de fils.
C'est un maillage de fils dans lequel de l'eau est figée.
D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous allez mettre à l'intérieur de ce maillage pour aboutir au développement cellulaire qu'on suggère là, depuis le début ?
Alors, ouais, justement, tout notre travail, en fait, c'est de mettre des cellules à l'intérieur de ces constructions, dans cette eau figée avec d'autres molécules, pour que les cellules puissent se sentir bien, entre guillemets, et être capables de fabriquer des molécules pour lesquelles on veut les destiner, pour reconstruire un tissu qu'on veut après régénérer.
Alors, ces cellules-là, vous allez les prendre où ? Est-ce que ce sont des cellules souches ? Est-ce qu'elles sont mono-orientées ou totipotentes ? Et vous allez les nourrir comment ? Alors là, c'est votre... D'accord.
Alors, comme vous le savez, l'organisme contient des cellules qui ont un pouvoir de réparation, quel que soit le tissu dont on parle. Quasiment tous les tissus contiennent des cellules de réparation. Le problème, c'est que ces cellules, elles sont en quantité très, très faible. Donc, notre objectif, c'est de les sortir de l'organisme, d'en fabriquer des quantités beaucoup plus importantes, de les mélanger avec ces hydrogels et de les réinjecter sur le siège de la maladie. Donc, pour le cartilage, là où il n'y a plus de cartilage, on les réinjecte. Pour le disque intervertébral, lorsque celui-ci est abîmé par l'âge, eh bien, on le réinjecte directement dans le disque intervertébral. Ou pour l'os, lorsqu'on a une perte de substance osseuse, on réinjecte avec ces hydrogels ces cellules au bon endroit et en bonne quantité.
Au fond, vous parlez du disque intervertébral, hein, c'est ce qui donne les hernies discales, qui sont
lombalgies, hernies discales,
etc. Ça fonctionne un peu comme vos gels, hein, ça a la même la même consistance.
Complètement, hein, ce sont des hydrogels également. Ce sont des solutions de macromolécules plus ou moins liées, plus ou moins en réseau, et qui vont réagir aux contraintes pour amortir les contraintes.
C'est formidable ce que vous nous dites, parce que en fond, vous nous montrez que ce que vous inventez réellement, de facto, dans la réalité, ça existe déjà dans notre corps. Vous copiez la nature. Là.
On copie la nature, tout à fait, en essayant de lui permettre de faire ce pourquoi elle a été... pourquoi elle existe... Enfin, on est là pour l'aider à régénérer, en fait, grâce à des matériaux et de régénérer le tissu pour lequel on veut réparer, en fait, une maladie.
Alors, la régénération, ça suppose, Jérôme Guilleux, qu'il y ait beaucoup de cellules au boulot. Comment vous allez faire en sorte qu'elles soient plus proliférateuses qu'elles ne le sont dans notre corps?
En fait, on les sort de l'organisme et on les multiplie dans un laboratoire. Et puis lorsqu'on en a une quantité que l'on juge suffisante,
hop.
Culture, comme des cellules classiques.
Et là, ça produit, ça
exactement, ces cellules, elles ont la capacité à proliférer de façon indéfinie. Donc, pour nous, c'est un avantage. Et puis ensuite, on les réintroduit directement dans l'organisme. Et l'avantage des hydrogels, c'est que ce sont des matériaux qui sont injectables. Donc on n'a pas besoin, par exemple, pour réparer un genou, on n'a pas besoin d'ouvrir, on n'a pas besoin de faire une arthrotomie. On peut simplement injecter, à l'aide d'une simple aiguille, le matériau et les cellules sur le siège de la lésion. Et pour le genou, on comprend très bien l'intérêt que ça a, et encore plus pour le disque intervertébral, où on n'a pas du tout besoin d'avoir un abord chirurgical invasif.
Au fond, tout le mouvement de la médecine actuelle tend à réduire les invasions, à réduire les ruptures, à réduire les opérations, à réduire la chirurgie, au fond.
Le plus le geste est mini-invasif, le moins il y a de complications. Donc forcément, pour nous, c'est intéressant de développer des méthodes mini-invasives, ce qui permet aux patients de sortir plus vite après l'intervention. Donc ça coûte moins cher. Donc c'est bénéfique pour tout le monde.
Tout ça, ça coûte moins cher. C'est pas besoin de titane... etc. pour les articulations.
Le titane a rendu de fiers services quand même.
J'entends bien, non, mais bon. Il n'est pas renouvelable, tandis que là, c'est renouvelable, ça.
Si on veut, oui, c'est ça.
Alors, Pierre Weiss, vous vouliez ajouter quelque chose, là, non?
Oui, sur le coup, ce n'est pas si évident que ça, pour l'instant.
Oui, d'accord, pour l'instant.
Parce que les cellules, il faut les traiter, il faut les mettre en dehors de l'organe.
Oui, c'est clair. Alors, ce qui était intéressant, c'est que vous avez... Alors, ce travail-là, il est pluridisciplinaire. Et ce qui est étonnant, c'est de voir que vous avez... partenariat avec l'école vétérinaire, on vient de comprendre, partenariat aussi avec l'INSERM, l'IFREMER. Qu'est-ce que les spécialistes de la mer viennent faire là-dedans?
Alors avec l'IFREMER, on a une collaboration régionale en fait, qui existe maintenant depuis 4 ans, qui s'appelle Bioregos, et qui regroupe des laboratoires du CNRS, de l'INSERM, et également d'IFREMER, pour en fait, ils vont chercher des bactéries des grands fonds marins, et ils produisent des polysaccharides qu'on utilise pour avoir des objectifs biologiques. Et donc, en fait, on teste ces macromolécules dans des constructions pour ressembler au tissu que l'on veut recréer. Et on regarde comment les cellules réagissent à ces molécules d'origine marine.
Donc, décidément, vous puisez partout où il y a de la vie, au fond. Et partout où il y a de la vie compatible avec, a priori, notre corps. Vous avez trouvé des choses éventuellement dans les végétaux ou pas?
Dans les végétaux, oui, puisque nos hydrogels sont à base de cellulose.
Et ben voilà.
Qui sont transformés et on les transforme chimiquement pour leur permettre justement de faire des liaisons et de faire ce réseau par une chimie particulière qui permet d'éviter tous les agents toxiques en fait. Ça se fait spontanément par variation du pH.
Mais au fond, c'est que notre corps soit composé de végétal, de minéral, d'organique, ça n'a rien d'étonnant, il est déjà fait comme ça, c'est ça?
Ah oui, complètement. L'os est fait à 90% de minéral avec une trame organique à l'intérieur.
Alors, donc, le naturel est bienvenu et au galop des chevaux qui seront utilisés. Jérôme Guichet, vous aviez bien percuté là-dessus. Alors, Gérard Klein, vous avez co-dirigé la grande anthologie de la science-fiction de 74 à 85. Vous êtes un dévoreur de SF, hein, on le suppose. Vous avez rencontré, peu ou prou, ce qu'on a évoqué avec nos deux chercheurs-là. Est-ce que vous pouvez puiser dans votre mémoire et dire, tiens, j'ai tel auteur américain, ou anglais, ou français, ou allemand, que sais-je, j'ai déjà vu quelque chose comme ça. Donc, essayez de tisser un lien aussi entre science et science-fiction.
Oui, alors, je crois qu'il y a une première chose qu'il faut dire, c'est que dans le passé, la grande anthologie remonte quand même à une trentaine d'années, dans le passé, il était surtout question de techniques qui étaient d'ailleurs utilisées par les biologistes et les chirurgiens, c'est-à-dire soit de greffe d'organes, soit du remplacement d'organes, par exemple le cœur, par des objets mécaniques. Or, je crois, et ça commence à infiltrer dans la science-fiction, que ce sont trois voies assez différentes qui seront utilisées dans l'avenir. Alors, je vais les évoquer brièvement, au risque de choquer mes camarades scientifiques. La première concernerait la repousse d'organes. C'est ce que j'appellerais l'effet salamandre, la possibilité de faire repousser un organe. Il y a quelques cas, j'ai lu des articles scientifiques là-dessus, de repousse spontanée, notamment dans le cas de doigts, mais qui sont très limités et qui sont généralement complètement de travers. Mais enfin, on peut espérer que dans le domaine de la repousse d'organes, on fera de grands progrès.
En fait, c'est ce qu'ils font, ils font repousser de...
Le deuxième rejoint tout à fait les travaux dont il a été question, mais il consiste à utiliser comme matrice biologique des organes qui sont prélevés sur des défunts et qu'on lave complètement de leur contenu cellulaire. Alors, une matrice est ainsi constituée, qu'on parvient à conserver, et dans laquelle on fait pousser, littéralement, à partir de cellules, peut-être de cellules souches, un nouvel organe qu'on pourra greffer. Et si les cellules sont prélevées sur le patient, il n'y aura pas de phénomène de rejet.
Alors, c'est plus un salamandre, c'est un Frankenstein revisité, ça. Allez-y, parce qu'il faut que le micro s'allume, là.
Ces techniques sont déjà utilisées, en fait, dans le milieu osseux, en fait, où on déminéralise, on prend la trame et on l'utilise comme biomatériau. Par contre, il y a des risques de contamination importants et avec les problèmes de prions, de virus, etc. L'objectif, c'est de faire tout le plus possible synthétique, de ne pas avoir à prendre des organes de cadavres, de les traiter pour les remettre dans un organe vivant. Et c'est ce qui se passe actuellement beaucoup aux États-Unis d'ailleurs.
Oui. Alors, ce qu'on espère, bon, c'est dans un avenir probablement relativement éloigné, mais reconstruire des organes entiers, enfin un cœur entier, par exemple, mais encore une fois à long terme, je ne veux surtout pas. Le troisième domaine qui me paraît très intéressant sont les greffes très particulières. Nous sommes peuplés littéralement de passagers. Nous portons plus de cellules étrangères à notre corps, des microbes, enfin des bactéries et des virus au combien, qu'il n'y a de cellules dans notre corps. Hein. J'ai fait avec un de mes amis qui travaille à Harvard, David Skernick, une évaluation du poids. Nous portons entre 2 et 4 kilos de passagers. Or, on peut, en modifiant la faune et la flore, notamment mais pas exclusivement intestinale, envisager de traiter un certain nombre de maladies très délicates. Alors ça me paraît une troisième voie, la repousse d'une part, ensuite le travail sur matrice biologique, et la troisième voie, c'est utiliser nos passagers pour guérir un certain nombre de maladies de Crohn.
Jérôme Guichet, vous voulez dire comment nos hôtes pourraient parvenir à ça?
Je crois que ça nous renvoie à une publicité sur le bifidus actif, là, où on a vu Danone, je crois que c'est Danone.
Danone, certain.
Ouais, donc, effectivement,
c'est pas un hôte direct, il faut l'ingérer.
Effectivement, on est colonisé par un nombre très très impressionnant de bactéries, et chez le nouveau-né, cette colonisation par les bactéries peut être à l'origine de certaines maladies lorsque ça ne se déroule pas comme ça devrait se dérouler. Et c'est en ce sens que, effectivement, cette réflexion est extrêmement intéressante sur l'utilisation de ces passagers que l'on a tous en nous.
Merci beaucoup. Brandon Sanderson, quand vous êtes, vous, en veille scientifique, vous êtes et technologique, vous êtes en veille aux États-Unis, vous nourrissez comme ça votre imaginaire de romancier. Alors, ce que vous avez entendu là, ça vous a intéressé, pas surpris, surpris un peu? Faites-moi un petit rapport d'émerveillement.
Oh well, certainly. I mean, as a writer, you're always, particularly as a writer in science fiction and fantasy, you're always looking at science and wondering where could this take us? And it's actually kind of an interesting cycle because in speculative fiction, my job is to imagine both the plausible and the implausible, to look at these things and say, what if? But then a lot of the science, there are specific instances where science fiction writers, speculative fiction writers, have written something which has inspired the scientists who have in turn turned it into a reality. But then the further research of that science turns around and starts inspiring writers again. And it's kind of like the circle of life, except much more nerdy. I listen to this. This is all very fascinating. And what I do in my fiction is often trying to take a little bit from science, a little bit from mythology, and a little bit from superstition, and try and work them together in sort of a chemical soup that comes out as my fiction.
Alors là, est-ce que vous avez entendu des choses qui continuent à dans ce que vous ont dit les deux scientifiques nantais? Est-ce que vous avez été un peu nourri d'une façon imaginaire ou pas? Ça, vous le connaissez déjà,
tout
va bien.
I mean, I did know about some of it, though I don't know a lot of the very specific details. I mean, the idea that is interesting to me is the concept, again, of us being colonized, which is a very fascinating concept to me. And, the place my mind goes with that for a story would be, you know, in the future, people being defined not by their country or by their race, but by the viruses that they have chosen to have inhabit them and what those viruses do for them. And could you be defined as an ethnic group by, yes, I have this virus, and I've chosen to have this virus because it does such and such. It makes me immune to disease. Or I've chosen to have this virus because so long as I have this virus, I pick up languages much more quickly because of the symbiotic relationship. I'm giving this virus a host, and it happens to have this effect on my brain. And what could happen with a story in the future if that were the case?
Très bien, c'est une très bonne réponse. En tous les cas, il y a ce phénomène de colonisation, il existe déjà dans ce vivant-ci entre les scientifiques et les auteurs de science-fiction. Alors on va dire que Dunyak, c'est un scientifique, donc voilà, il vient écrire. Et puis il y a aussi Klein, qui est le numéro 2 du CEA. Étienne. Oui, il le tient bien aussi. Bon, parfait. Pierre Weiss, alors je disais... Finalement, ça ouvre l'imaginaire à beaucoup de choses, ces matériaux sur lesquels vous travaillez. Il n'y a d'ailleurs pas que les hydrogels, il y a aussi des céramiques. Alors, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais expliquez-nous ce que c'est ça.
Non. En fait, on travaille depuis plus longtemps que les hydrogels sur les céramiques.
Oui.
Ça fait plus de 20 ans qu'on travaille sur les céramiques. Et c'est au contraire des matériaux qui sont utilisés maintenant tous les jours par les chirurgiens orthopédiques en chirurgie osseuse. Et en fait, la céramique, on mime la constitution chimique de l'os
et sa structure physique
où on y met dedans des pores pour que les cellules puissent pénétrer à partir de l'os qui se trouve à côté dans les pores, et elle reconnaît le matériau comme si c'était du tissu osseux.
D'accord.
Elles se mettent dessus et elles fabriquent de la matrice osseuse, et d'autres cellules qui sont là pour dégrader l'os dégradent ces céramiques de la même façon que si c'était de l'os, et au bout d'une dizaine d'années tout le matériau est transformé par du tissu osseux. C'est le remaniement.
Ça,
normal.
C'est au point.
Et ça, c'est utilisé tous les jours.
Voilà. Mais on ne peut pas le dupliquer à d'autres domaines.
Ah non,
Parce qu'il faut avoir la structure osseuse.
Il faut que ça soit un tissu minéralisé.
Il n'y a pas d'autres structures qui ressemblent à la structure osseuse, en tous les cas, qui aient cette dureté.
Ah bah, il y a le tissu dentaire, mais l'émail ne se renouvelle pas. Il a été créé lors de la naissance, puis lorsqu'il y a l'éruption des dents d'adultes, mais il n'y a pas de remaniement de l'émail.
Donc il faut renoncer à ça définitivement ?
Pas forcément, mais c'est plus complexe, c'est-à-dire qu'il faut être capable de recréer ce qui s'est passé lors de la création de la dent.
Alors là, il faudrait peut-être aller chercher d'autres cellules, les totipotentes ou... ou les souches.
Là, ça se rapproche de la science-fiction pour l'instant.
On n'en est pas encore
à la science.
On essaie de se projeter un peu avec vous.
Mais il y en a qui ont réussi quand même à refaire... des modèles de dents débutantes dans des modèles animaux
en mettant
des tissus qui étaient proches des tissus embryonnaires.
Oui.
Et on arrive à recréer quelque chose qui y ressemble.
Alors on essaie de se projeter par l'imagination, mais au fond, à un moment, il a bien fallu que les scientifiques le fassent pour arriver à faire ce qu'ils font. Il y a un moment où ils ont rêvé, où ils ont été science-fictionnistes, Bon. Alors, sur le plan collatéral, qu'est-ce qu'on peut imaginer avec l'hydrogène? Alors, je disais un plan mammaire. Bon, vous ne voulez pas entendre parler d'un plan mammaire, mais est-ce qu'au fond, on ne peut pas retrouver la même chose, faire un implant mammaire avec quelque chose qui soit un peu moins souple au départ, un peu moins physiologique que la physiologie du sein, et puis qui, avec des cellules, reproduisent complètement au moins la masse graisseuse?
Ah, pourquoi pas, oui. Il y a des équipes qui travaillent sur, effectivement, ce type de régénération. On ne peut pas non plus tout faire dans un laboratoire et on doit se maintenir sur un domaine parce que c'est quand même très spécifique. Mais effectivement, il y a des équipes dans le monde qui travaillent sur de la régénération de tissus plastiques, sur de la régénération musculaire, sur de la régénération nerveuse à partir d'hydrogène.
On peut imaginer de régénérer des parties du cerveau.
Il y a des gens qui travaillent sur des hydrogels dont les nanopores sont orientés pour que les axones puissent repousser à l'intérieur dans la direction qui a été créée lors de la construction de l'hydrogel.
Et donc la piste du syndrome salamandre évoqué par Gérard Klein, c'est dans les tuyaux, si je puis dire.
Notre objectif, c'est d'aider le processus salamandre, mais c'est tout.
Alors, votre point de vue à vous, Jérôme Guichet, le problème qui est posé là de manière conceptuelle, celui de la bio-intégration et de la mise au point de matrices cellulaires, hein, c'est ça. Est-ce qu'elle pourra jouer un rôle qu'on vient d'indiquer là? Est-ce qu'il faudra du totipotent ou d'orienter? Comment vous pensez qu'il faut raisonner les choses?
Je crois qu'il faut raisonner en termes de cible. Si on considère que la cible, c'est un tissu relativement simple comme le cartilage où il y a un seul type de cellule, on a besoin d'un seul type de cellule. Mais si on considère que la cible à réparer, c'est une dent dans laquelle il y a plusieurs types de cellules, il faudra qu'on utilise des cellules qui soient totipotentes ou en tout cas qui puissent donner naissance à la totalité de ces cellules. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que de faire simplement du cartilage où il y a un seul type de cellule. Donc la totipotence, c'est bien. Ça répondra probablement à la question de la reconstruction de tissus beaucoup plus complexes, mais c'est extrêmement difficile à maîtriser. Et les paramètres biologiques à comprendre et à maîtriser sont multiples. Donc c'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre.
Gérard Klein, il y a une idée qui me traverse l'esprit. On était là sur une problématique initiale. Oh là là, on va nous coller de la mécanique dans le corps, on va devenir des cyborgs, des quasi-robots, etc. Et si c'était l'inverse qui se produisait? Et si on n'investissait pas les machines avec des cellules organiques, biologiques, et qu'on mette dans certaines articulations avec frottement difficile, eh ben, du cartilage, des choses comme ça? Qu'est-ce que vous en pensez?
Je suis sceptique. À la lisière de la science et de la science-fiction, on peut dire qu'il y a eu des essais de ce genre pour utiliser des ensembles de cellules nerveuses, en particulier de souris, pour commander pendant quelques heures ou quelques minutes des appareils. Bon, le problème des tissus biologiques, c'est que, extraits de leur milieu naturel, si je puis dire, ils sont d'une extrême fragilité.
Ils meurent.
Ils meurent assez vite. C'est extrêmement difficile de les maintenir en vie et de les utiliser de façon pratique. Alors, il y a quand même autre chose sur quoi je voudrais revenir, si vous me permettez. Donc, en 1967, j'écrivais « Les virus ne parlent pas », où je proposais qu'à l'origine de l'évolution, enfin que l'évolution avait largement été contrôlée, conduite par des êtres dont les descendants dégénérés étaient les virus. C'était bon. Et je proposais, comme vous l'avez rappelé, que nous risquions nous-mêmes à nous entourer de prothèses mécaniques excessives, une éventuelle dégénérescence du
virus.
Cela étant, j'ai l'intention de donner à cette nouvelle une suite, parce qu'on a beaucoup progressé sur les virus, qui s'appellera « Les virus mènent la danse ». Et je crois que nous avons là un moyen, pas tout de suite, hein, mais de reprogrammer les tissus vivants extraordinairement puissants. Donc parmi les passagers, je pensais tout à l'heure surtout à des bactéries, à des microbes, le statut vivant ou pas des virus restant une question pendante. Mais donc je pense que nous avons dans ces passagers très particuliers que sont les virus, et qui sont en nombre incroyablement important. Dans un mètre cube, dans un litre d'eau de mer, pur, soi-disant, il y a une quantité de virus extraordinaire. J'ai demandé à des scientifiques de me donner la masse, hein, combien il y a. Ils sont incapables de le dire, mais il y a des quantités extraordinaires. Là, si on arrive à utiliser ces possibilités de reprogrammation, avec les dangers que ça représente, enfin, ça peut donner des choses étonnantes. C'est pour ça que je compte écrire cette nouvelle.
Votre réaction à vous, Jérôme Guichet ?
Pas que chez nous d'ailleurs, mais dans de nombreux laboratoires, on utilise déjà les virus. Le côté dangereux du virus, c'est sa capacité à pénétrer dans des cellules de l'organisme pour y déclencher une réaction, une maladie par exemple. On prend le virus du sida. Eh bien, ces virus, si on est capable de détourner leur activité de colonisation des cellules, on peut les utiliser, et c'est ce qui est déjà fait aujourd'hui. On les utilise pour vectoriser des médicaments à l'intérieur de cellules malades. Et donc on est un petit peu dans le
processus inverse.
On détourne la nature pour utiliser à notre profit ce que les virus sont capables de faire de façon extraordinaire. Parce que contaminer une cellule à la vitesse à laquelle ils sont capables de le faire, c'est assez extraordinaire.
Alors, quelle est leur capacité que vous utilisez ça ? Leur capacité à cibler ?
Alors, effectivement, les virus, en fonction de leur type, ont une capacité à cibler certaines cellules. Cellules du système immunitaire, si on pense au virus du sida par exemple.
Oui.
Mais beaucoup d'autres cellules peuvent être la cible de virus. En particulier, nous on utilise beaucoup les lentivirus, parce que ce sont des virus dont on maîtrise relativement bien la capacité à proliférer, parce que le virus, une fois qu'il est entré dans la cellule, la première chose qu'il fait, c'est se multiplier pour tout de suite penser à sa survie. Donc il se reproduit de façon à pouvoir donner naissance à une descendance, ce que nous on ne pense pas forcément à faire. Et donc ce virus se multiplie, et c'est ainsi qu'il provoque la mort de la cellule. Alors nous on a détourné en fait cette capacité à pénétrer dans les cellules et à se multiplier pour délivrer des médicaments en quantité extrêmement importante au sein de cellules malades.
Et aussi, si vous permettez, pour reprogrammer, dans quelques cas qui sont à l'heure actuelle à la limite de la science, mais pour reprogrammer le capital cellulaire, enfin le noyau de la cellule. Bien sûr. Pense qu'il y a, en particulier en ce qui concerne les maladies du sang, il y a eu quelques succès spectaculaires très récents.
Alors effectivement, dans le labo du professeur Fischer à Paris, il y a eu des résultats spectaculaires sur des enfants bulles. Il y a également eu des résultats assez intéressants à Nantes qui ont été obtenus pour dans des maladies qui affectent les yeux, où l'utilisation de virus a permis de modifier génétiquement les cellules de la rétine pour redonner la vue. Et actuellement donc, ça a été réalisé sur des chiens où les résultats sont spectaculaires, puisque les chiens passent d'un statut d'aveugle à un chien voyant. Et actuellement, les essais cliniques sont en cours ici à Nantes.
Toujours en me projetant loin, parce que vous disiez dans longtemps, même si c'est que quelques petites décennies inférieures à 5, il y a aussi des choses qui risquent de tomber, c'est les transplantations. C'est d'abord la xénotransplantation, puisqu'en fait, vous allez chercher du tissu... De l'autotissu, du tissu personnel.
Je pense que la transplantation d'organes, en tout cas, a encore un bel avenir devant elle.
Oui, bien
entendu. Parce que lorsqu'on pense au prélèvement de cellules sur des patients, il y a plein de paramètres qu'il faut maîtriser. L'âge du patient peut être un problème. Effectivement, plus on est âgé, moins on est donneur de bonnes cellules pour s'auto-réparer. Donc il va falloir qu'on puisse répondre à cette demande d'une population vieillissante. On a gagné 20 ans d'espérance de vie en un demi-siècle, donc on est vraiment dans une situation où la population vieillit. On ne sait pas exactement quelles sont les capacités de réparation des cellules de patients très âgés. Donc on y travaille, mais ça va demander quelques années pour comprendre un peu tout ça.
Mais vous êtes sûr que ces cellules n'ont pas les mêmes capacités qu'à 20 ans ?
On est sûr que les cellules n'ont pas la même capacité à réparer un tissu quand on a 80, enfin, quand on est âgé. Comparativement à un patient jeune.
D'accord.
Maintenant, on peut isoler des cellules avec un bon pouvoir de réparation chez les personnes âgées. Il y en aura moins, mais à nous de les faire proliférer pour en fabriquer davantage.
D'accord. Alors, Brandon Sanderson, il y a un certain nombre de magazines américains qui annoncent le Small Bang, qui serait une sorte de réplique technologique du Big Bang. Et c'est en fait une convergence technologique généralisée, une symbiose détonnante entre les progrès de l'informatique, des nanotechnologies, de la biologie, des sciences cognitives. C'est d'ailleurs Bang pour bits, atomes, neurones, gènes. Donc ça résume bien tout. Et ça ouvre, selon les magazines américains, à une post-humanité. Comment vous réagissez, vous, à ça ? Est-ce que c'est une perspective qui vous paraît nécessaire d'envisager, ou faisons de la littérature plutôt que du journalisme comme ça?
Well, the Do we need to consider it? I think it's interesting to consider it, but the question becomes, what is then the definition of mankind? And in a greater sense, I mean, this entire conversation has me thinking about the definition of self. What makes a person, what makes us who we are, and how much of us can you replace before we become something else? And by some definitions, we are always becoming someone else as we are progressing through linear time. We, you know, as our cells are dying and repairing themselves, we are changing. But at the same time, it's very fascinating to me. One of the things that I'm very interested in, there's an old philosophical quandary about a ship, the ship of Theus, which you may have heard of, which was a thought experiment offered by the ancient Greeks, where a ship was preserved for this great king Theus, and over time it grew older and older, so they replaced the planks on it, and one at a time they replaced all of the ship. So then 100 years later, they called it still the ship of Theus, but not a single atom in that ship had been there when Theus had actually used it. And so is that still his ship? And the same question, we talked about regrowing brain matter or replacing brain matter and things like this. And I think part of the job of the science fiction, speculative fiction writer is to ask these questions. Identity and humankind, when we evolve beyond what we are now, are we still humankind? Are we post-humankind? You know, what happens, and this is all the whole concept of the singularity, where we eventually hit a point where understanding what happens beyond it is so foreign to our human minds that we can't even begin to guess.
Parfait. La métaphore du bateau que vient d'être utilisée et du bateau dont on renouvelle tous les aimants au fur et à mesure, finalement, on les renouvelle de façon mécanique dans la métaphore, mais vous, c'est ce que vous allez faire. Et si on se projette au bout, on se dit, il y a une potentialité d'individus, elle n'est pas éternelle, mais Mathusalem, quoi. Est-ce qu'on est toujours est-ce que vous posez ces questions-là, ou est-ce que vous ne les posez pas, est-ce que vous en posez d'autres? Dites-moi l'un et l'autre comment vous vivez intellectuellement et moralement, éthiquement, votre travail.
Pour l'instant, on n'en reste qu'à vouloir régénérer des parties de tissus. Même pas d'organes, c'est pour ça, par rapport à la xénotransplantation, on est encore très loin de la remplacer.
C'est ce qui s'appelle mettre le doigt dans l'engrenage, malgré tout.
Tout à fait.
Hein?
C'est de l'autologue, on prend effectivement ça du propre patient. On ne s'attaque pas au vieillissement. On n'est pas là pour trouver un remède au vieillissement naturel de l'individu. Sauf qu'on essaye...
Oui, pour cartilage.
Pour le cartilage, effectivement. Mais c'est les conséquences du vieillissement.
Oui.
Alors maintenant, le vieillissement, à quoi c'est dû? Pourquoi? C'est encore une autre question.
Mais pour traiter les conséquences, il faut traiter les causes. Et donc, voilà, on met le doigt dans l'engrenage.
Une chose est sûre, c'est que nous, de par les approches qu'on a sur certaines maladies liées à l'âge, on ne considère pas le vieillissement comme une maladie. Hein. Le vieillissement, c'est jamais quelque chose de naturel. Et nous, on s'intéresse aux maladies, on ne s'intéresse pas à ce qui est naturel et biologique.
D'accord. Donc, en d'autres termes, vous ne vous posez pas le problème tel que dans les termes que j'ai utilisés tout à l'heure.
On ne s'intéresse pas au vieillissement en tant qu'augmentation de l'âge. On s'intéresse au bien-être du patient.
Du patient à l'instant T sur un point T.
Le plus longtemps possible.
D'accord. Et donc, vous n'avez pas, vous, de problèmes éthiques ou moraux dans le cadre de l'activité que vous développez?
Si, on en a, oui.
Lesquels?
L'utilisation de cellules souches embryonnaires, par exemple, c'est quelque chose que...
Ah oui, donc aller chercher sur l'embryon.
C'est quelque chose auquel on est obligé de penser.
Il y a maintenant d'autres sources de cellules souches. Il y a même l'autosource, parce qu'on en porte encore, nous.
Pour éviter d'avoir à répondre à des questions éthiques... embarrassante ou freinante, en tout cas pour le développement de l'activité scientifique, on se tourne vers des cellules qui sont nos propres cellules, donc des cellules adultes, pour lesquelles il n'y a pas de problème éthique. C'est pour ça qu'on se tourne vers ce type de cellules.
Voilà.
Le jour où éthiquement on aura fait, peut-être qu'on ne le fera jamais ce pas en avant, mais le jour où éthiquement on aura fait un pas en avant dans l'utilisation des cellules souches embryonnaires, peut-être qu'on changera de cellules à utiliser. Mais pour le moment, l'éthique est encore pour nous... quelque chose d'assez éloigné encore, en tout cas dans la conception qu'on fait de nos développements thérapeutiques.
Pourtant, j'avais le sentiment que c'était pour des raisons éthiques que vous étiez tourné vers nos propres cellules. Hein.
Oui. Par contre, l'éthique occupe une place importante chez nous, mais dans la relation qu'on a à l'animal. où on fait beaucoup d'expérimentations animales, et effectivement, où là, effectivement, on a une véritable démarche réflexive autour de cette utilisation des animaux, et c'est pour ça qu'on se tourne vers le cheval.
Voilà, pour les raisons que lui aussi a besoin des mêmes technologies.
Que l'on considère plus comme un modèle animal, mais comme un patient.
C'est plus un cobaye, c'est un patient.
C'est un patient. Voilà.
C'est un patient qui n'a pas les caractéristiques humaines, donc vous ne lui demandez pas son consentement, mais c'est tout comme...
Non, mais il se plaint de la même façon que se plaint un patient humain, donc pour nous c'est
un... Peut-être un peu plus bruyant quand même, non ?
Peut-être.
Et détonnant.
Encore que ça dépend des patients. Mais...
Bon, ça c'est la réponse de Jérôme Guicheux, là. Vous en avez une différente, Pierre Weiss ?
Non, je suis assez proche de ce que dit Jérôme. Hein. Les problèmes d'éthique, après, qu'on se pose, nous également, c'est quand on va à la clinique. C'est-à-dire que quand on va chez le patient, proposer des thérapeutiques innovantes, vous savez qu'on est parfaitement encadré par des règles d'éthique avec le consentement, un certain nombre de choses, où maintenant les règles en France sont très 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 strictes et où on doit les suivre, qui d'un autre côté nous freinent par rapport à ce qu'on voudrait aller par rapport à la vitesse. On a également des patients qui nous appellent en disant « Pourquoi vous n'allez pas plus vite ? On aimerait bien pouvoir résoudre. » Mais on va à la vitesse de la science, à la vitesse de l'éthique et des lois qui nous encadrent. Mais on avance quand même et heureusement qu'il y a ces lois finalement pour bien encadrer tout ça.
Alors, vous êtes en train de nous parler un peu du rythme de vos travaux, hein, parce qu'on pose toujours la question, oui, à quand est-ce que vous allez sortir ça ? Et il y a la loi et les règles et la morale et l'éthique qui sont des éléments de frein. Est-ce qu'il y aurait à contrario des éléments, je ne sais pas, financiers, de compréhension du public, etc., de mobilisation de plus d'énergie, de plus d'argent, qui seraient des accélérateurs efficaces ou pas ?
Il faut se méfier par rapport... c'est vrai que si on se lâche, entre guillemets, qu'on donne des espoirs importants, on peut avoir une pression des populations pour dire qu'il faut aller plus vite. Maintenant, nous, on est à un temps donné, on a un certain nombre de réponses à un certain nombre de questions, mais on ne connaît pas la vitesse à laquelle on va résoudre les problèmes. Et l'idée, c'est pas de donner non plus trop d'illusions aux gens pour qu'ils puissent croire qu'ils vont réparer leur genou arthrosique et que demain, ils pourront marcher et ne pas avoir une prothèse de titane. Ça, on ne connaît pas actuellement la réponse. On sait qu'on progresse, on sait qu'on avance tous les jours. Et...
Donc il faut vous suivre, il faut regarder sur votre site internet.
Voilà, mais par contre, on a besoin effectivement de financement et on a besoin de bras pour pouvoir avancer. Et ça, c'est véritablement le nerf de la guerre.
Alors les bras, c'est aussi cette pluridisciplinarité dont je parlais. Oui. Finalement, les choses avec cette convergence, qui est l'inverse de la pluridisciplinarité, mais c'est le même mouvement. Cette convergence-là, elle a été utile, elle vous a apporté plein de...
Ah, pour nous, c'est un vrai moteur. Dans l'unité, technique. On a des chimistes, on a des pharmaciens, voilà. On a des biologistes, on a des médecins, des chirurgiens-dentistes, on a vraiment des vétérinaires, on a vraiment une...
Est-ce que vous avez des informaticiens ?
Alors, on a de temps en temps, mais il y a des services communs en informatique, en bio-informatique, qui interviennent avec nous, effectivement.
Donc vous vivez le small bang, mais... pas avec l'ampleur de définition de tout à l'heure. Alors Gérard Klein, je voudrais que vous nous aidiez à conclure. Brandon a dit tout à l'heure qu'on était en train de redéfinir l'humain. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez les choses, vous ? Alors, il y a à la fois le philosophe que j'interroge, et puis, celui qui est féru de philosophie, de science, etc. Philosophons donc. Et puis aussi le psychologue social, c'est-à-dire comment ça se passe. Est-ce que tout le monde redéfinit l'humain ou est-ce que c'est à plusieurs vitesses cette histoire ?
Voilà, là je crois qu'il y a plusieurs questions. D'abord, j'aimerais quand même revenir brièvement sur la question du vieillissement et de la lutte contre le vieillissement. Même si ça n'est pas pour demain, c'est pour après-demain et ça viendra peut-être beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Il suffit de regarder dans le passé certaines... Il y a 10 ans, on savait à peine déchiffrer le capital génétique, enfin l'ADN et l'ARN, on a fait des progrès absolument. Bon, alors là, je vois simplement, j'ai publié des livres de mon ami Roy Walford, qui est biologiste et médecin, et qui a travaillé notamment avec Jean Dausset, prix Nobel de médecine. Et alors un jour, on réfléchissait à cette question de la lutte contre le vieillissement, à l'époque, il y a une vingtaine d'années, par des moyens simples comme la déprivation alimentaire. Mais alors, un jour, je dis à Roy, combien de temps on peut espérer, idéalement, prolonger la vie humaine ? À ce moment-là, Roy me répond sec, 600 ans. Et Pourquoi 600 ans? Pourquoi 300 ou 1000 ou 2000, etc. Et on répond parce que les statistiques des compagnies d'assurance indiquent que tout le monde est mort d'un accident au bout de 600 ans.
Alors, ça rend modeste.
Je voudrais revenir donc à la question du transhumanisme ou du post-humanisme, auquel je ne crois pas beaucoup, tel que pour, au travers de ce que j'ai pu en lire. Cela dit, qu'on puisse transformer considérablement à longue échéance le corps humain, je le crois très volontiers, avec, à travers toutes les techniques dont on a parlé et celles dont on n'a pas parlé. Et ça pose une question très fondamentale pour le psychanalyste que je suis un peu, qui est celle du désir. Qu'est-ce que les humains peuvent souhaiter transformer dans leur corps? Et alors, à cette question-là, je n'ai évidemment pas de réponse, mais il faut beaucoup, beaucoup y réfléchir. Et ça pose aussi des questions éthiques. Jusqu'où peut-on aller? Au nom de quoi? Et à un moment précisément où les fondements, je dirais, transcendantaux de l'éthique ont tendance à disparaître pour être remplacés par des règles souvent freinante, hein, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Enfin, j'ai fréquenté un certain nombre de membres de comités d'éthique, dont mon ami Pierre Fédida, qui était psychanalyste lui-même, et bon, des discussions intéressantes là-dessus. Mais sur quoi peut porter le désir?
Vos réactions à vous trois, oui, maintenant sur cette notion de désir, et puis on va conclure là-dessus, parce que le temps nous est compté.
Oui, je crois que c'est effectivement intéressant. Nous, on ne cherche pas à transformer le corps. On cherche à retrouver la situation initiale avant la maladie. Par contre, avant nous, il y avait une discussion avec les frères Bogdanov, par exemple, et là, on cherche à transformer le corps. Pour moi, ça n'est plus éthique. Moi, quand j'ai un patient, je suis chirurgien dentiste, qui vient me dire, je veux que des dents en or pour pouvoir sourire, avoir un sourire, un gold sourire, je ne suis pas d'accord, je ne le fais pas, même si c'est la volonté du patient, parce que ça n'est pas éthique dans ma conception de chirurgien dentiste. Et que je ne suis pas là pour régénérer son sourire et sa fonction physiologique. Donc c'est là où il y a une différence entre retrouver l'organisme tel qu'il était avant la maladie ou transformer le corps.
Oh. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il y a un grand nombre de cas où la distinction devient de plus en plus difficile à faire. Hein. En particulier quand il s'agit de réparer quelqu'un qui est né de travers, si je puis m'exprimer ainsi. Et ouais. J'ai participé à un colloque, et je dois refaire ça l'année prochaine à Bruxelles. Les Belges sont... à bien des égards, je ne parle pas des scientifiques, je parle des philosophes, et plus avancés que les Français là-dessus. Donc j'ai participé à des colloques sur cette question, et apparaît très vite l'extrême difficulté de poser des limites entre ce qui est réparation, retour au précédent, et ce qui est amélioration.
Merci beaucoup. D'une phrase, pour vous deux, allez-y.
C'est un peu le même type de questionnement qu'on a par rapport au vieillissement. Un patient qui vieillit, c'est un patient qui, on le sait, a de plus en plus de douleurs. Et prévenir ces douleurs-là, c'est finalement lutter contre l'évolution normale et la biologie normale de ce patient. Donc on est plus vraiment dans la médecine thérapeutique. On est à la limite... bon, éthiquement parlant, ça soulève des questions auxquelles il faudra probablement qu'on réponde.
On sort de l'état naturel, du coup, d'une certaine manière.
Probablement.
L'arthrose est votre ennemi, le mien aussi.
Votre conclusion là-dessus, sur le désir. Que désirons-nous? Que désirez-vous?
I would just say, fortunately, unlike the scientists, I don't have to worry as much about the ethics. I can play with all sides of it in fiction, so that we can look at it and say, what do we really desire? So my job is to give us options as a fiction writer, so that as a society we can end up choosing what we think is ethical, what we think is desirable.
Donc vous, c'est porter des lampes et des lumières pour éclairer.
Hopefully that would be the case.
Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je vous demande de les applaudir. Ils nous ont régalés intellectuellement. Merci de votre attention. Il y a maintenant une conférence qui porte sur la construction des murs. On attend les personnes qui vont intervenir et modéré. Merci beaucoup.